RCF. C'est le poète Jude Stéphan, qui n'était pas très optimiste, qui disait ceci à propos de la poésie dans le monde contemporain. Peut-être y aura-t-il un monde sans poésie. On ne saura même plus qu'elle a existé, ni n'en éprouveront le besoin. Quel propos inquiétant, pessimiste, sombre. Peut-être traduit-il que la poésie est en crise, peut-être traduit-il ce propos, une crise du langage, une crise spirituelle, une crise des relations entre la modernité et la poésie. Pourtant, elle a eu ses heures de gloire, la poésie. Revenons un peu en arrière, pas trop en arrière. Les troubadours au XIIe siècle, Pétrarque au XIVe siècle, la Pléiade. Le XIXe siècle a été un siècle poétique. Nerval, Baudelaire, Hugo, et j'en oublie, et des meilleurs. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Le XXIe siècle est-il poétique? Restera-t-il poétique? Nous sommes trois dans ce studio pour en parler aujourd'hui. J'ai invité Pascal Rioux, qui est poète, enseignant, et qui vient de publier aux éditions Conférences un recueil d'âge en âge, recueil qui a été récompensé par le prix Verlaine de l'Académie française. Et puis j'ai invité également, pour nous parler de poésie contemporaine, Pascal David, qui est philosophe et qui a publié, à l'occasion de la publication des Cahiers de Lerne consacrés à Christian Bobin, un bel article qui peut être lu dans ce Cahier de Lerne. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Ce propos de Jude Stéphan, Pascal Rioux, comment résonne-t-il pour vous? Est-ce que c'est un constat pessimiste, désespéré, ou qui, néanmoins, peut être modulé, nuancé, bémolisé?
Écoutez, il est toujours possible que la poésie disparaisse et qu'on ne s'en rende pas compte, de même que la philosophie peut disparaître sans que l'on s'en rende compte. Il y a dans la poésie une forme de modestie qui fait qu'elle est effectivement par bien des côtés, tout du moins dans notre temps, inapparente. Ceci dit, je mettrai un bémol qui est le suivant. Très curieusement, beaucoup de gens écrivent de la poésie. En France, on peut considérer qu'entre 40 000 et 50 000 personnes écrivent régulièrement, je ne dis pas une fois dans leur vie, mais régulièrement de la poésie. Et pourtant, il n'y a pas 5000 lecteurs. Donc je crois que, quand on parle de crise de la poésie, il faudrait plus justement parler de crise de la lecture de la poésie. Pourquoi si peu de gens vont-ils à la source de tant de voix majeures d'aujourd'hui, qu'elles s'appellent Philippe Jacotet, Bobin, Yves Bonnefoy, pour ne citer qu'eux? Là, il y a véritablement quelque chose qui est assez énigmatique.
Une rupture donc entre un lectorat et ces poètes qui sont des voix majeures de notre temps. C'est ce qui vous frappe le plus, Pascal Rioux.
Oui, cela me frappe. Comme si il y avait une sorte de difficulté, voire d'impossibilité à rentrer dans des œuvres majeures et que l'on se contentât d'écrire affectivement pour soi, mais sans souci d'une forme partageable.
Et vous, Pascal David, comment voyez-vous, vous qui avez découvert, somme toute, il n'y a pas tellement d'années que cela, Christian Bobin, par exemple, comment voyez-vous, en tant que philosophe, mais aussi en tant que dominicain, ce rapport du lecteur contemporain à la poésie contemporaine?
Je dirais la chose suivante, il faudrait se demander ce que c'est que lire, et ce que c'est que lire de la poésie. On ne lit pas de la poésie au même rythme que l'on lit un roman ou un mail. Lire de la poésie, c'est entrer dans une autre temporalité, un autre rythme. Lire de la poésie, c'est relire. On ne lit pas de la poésie une fois. Il faut revenir, relire, apprendre par cœur, savourer ce qui se dit dans la parole poétique. Et peut-être que notre époque est moins apte à ce type de lecture.
Alors, Pascal David, je continue avec vous. Vous publiez dans le Cahier de Lerne consacré à Christian Bobin et qui vient de paraître un très bel article. On ne peut pas dire, par exemple, que Christian Bobin n'est pas de lecteur. Il a même presque, je vais oser l'expression, un fan club. Il a même une page Facebook des amoureux de Christian Bobin. Donc lui a trouvé son lectorat. Son public, sa cible. Est-ce que pour autant, on peut dire de Christian Bobin qu'il est un poète ?
Oui, indéniablement. Christian Bobin est un poète, même si ses formes d'écriture n'entrent pas uniquement dans le cadre de ce qu'on appelle la poésie. Il y a aussi des biographies comme Le Très-Bas ou des récits qui relèvent du journal intime, de la lettre. Mais c'est indéniablement un poète dans sa manière d'écrire.
Sa manière d'écrire. Alors, précisez-nous justement ce que vous entendez par sa manière d'écrire. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'écriture poétique de Bobin ? Et peut-être pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore, en dépit de ses nombreuses publications, dont certaines ont connu un très grand succès, je pense notamment au Très-Bas, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette écriture poétique de Christian Bobin ?
Donc Christian Bobin est un poète français contemporain qui, depuis une quarantaine d'années, publie au rythme d'un recueil par an de la poésie, parfois des recueils très courts, comme Le Plâtrier Siffleur qui fait 15 pages, des recueils plus conséquents, comme récemment La Nuit du Cœur ou La Muraille de Chine, L'Amour des Fantômes. Il s'est fait connaître lorsqu'il publie Le Très-Bas, en 1992. À cette date, il est déjà l'auteur d'une vingtaine de recueils. Le Très-Bas, c'est un livre, j'allais dire, sur François d'Assise ou à propos de François d'Assise. En tout cas, un livre dont François d'Assise est le personnage principal. Nous sommes à l'orée du XIIIe siècle. Donc, c'est l'histoire d'un homme qui quitte son père pour épouser l'univers et tous les hommes. Un homme, dit Bobin, qui est en procès avec son père, comme souvent les hommes, entre un père qui, lui-même, se soumet comme un petit garçon à la loi de l'argent, à la loi du sérieux, à la loi du monde mort, et une mère trop dévorante. Bobin fait parler François d'Assise. « Je n'ai aucun reproche à vous faire, mais il faut maintenant que je vous quitte, que j'aille aux travaux de mon père, non pas celui qui vend des draps aux riches, mais celui qui fait commerce de pluie, de neige et de rire. Mais il faut que j'aille aux travaux de ma mère, pas celle qui préfère son aîné aux enfants du voisinage, mais celle qui a même rudesse et même douceur pour tous, ma mère la terre, ma mère le ciel. » Il y a une correspondance entre François d'Assise, sa vie, son œuvre, et des thèmes propres à la poésie de Christian Bobin, qui sont le monde. Le monde tel qu'il se donne, le monde à ras de l'expérience, dans sa phénoménalité. Ce que cherche à dire Bobin, c'est ce qui nous apparaît comme cela nous apparaît. Continuer à se laisser émouvoir, c'est-à-dire transporter, par l'inouï qui surgit dans le monde. Et je crois que c'est cela, la poésie. La poésie, c'est un travail dans la langue qui essaye de faire entrer dans la langue ce qui déborde les cadres de l'expérience.
Pascal Rioux, Pascal David vient de tenter ou de nous donner une approche de définition de ce que serait le langage poétique. Comment vous, en tant que poète, et pas en tant que critique, pouvez-vous nous le faire cerner, ce langage poétique ? Je vous ai entendu lors d'une émission. Et vous dites que le langage poétique ou la poésie, c'est l'insaisissable.
C'est toujours difficile de se retourner sur soi-même. Vous savez, c'est la grande leçon du mythe d'Orphée. On ne se retourne pas sur une expérience essentielle, faute de quoi on risque de la perdre. C'est, donc, ça m'est toujours très difficile de parler de ce que j'ai écrit, et si certains poètes majeurs, je pense à Yves Bonnefoy, ont écrit des pages admirables de réflexion sur la poésie, il est vrai que c'est quelque chose, alors même que j'enseigne, qui m'a toujours été difficile. Je prendrai simplement le très beau titre d'un poète qui nous est proche, à Pascal David comme à moi-même, qui est Jean-Pierre Lemaire, d'un livre que Jean-Pierre Lemaire a consacré à une réflexion sur la poésie. Il s'appelle « Marcher sur la neige ». La poésie, dit-il, c'est cela. Ce sont ses premiers pas. Et cela reprend une allusion que Pascal David vient de donner. Ce sont ses premiers pas dans un monde qui est à la fois très ancien, mais que ses premiers pas rendent nouveau. C'est-à-dire qui est effectivement imprévisible et qui nous apparaît, bien que toujours déjà là, d'une façon nouvelle. Et la poésie, excusez-moi, je finis juste, et la poésie est une réponse à ce surgissement du monde.
Surgissement du monde qui, si on reprend le titre de l'ouvrage de Jean-Pierre Lemaire, donne aussi une impression d'infinie fragilité.
Oui, bien sûr. Je dirais, là, chrétiennement, de précarité au sens étymologique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est presque de l'ordre de la prière, avec là aussi ce que ça implique de dimension d'émotion, de déplacement, et d'une réalité à la fois de parole, de pensée, mais aussi largement insaisissable, parce que le vent souffle où il veut.
Pascal David, vous qui êtes, tout comme d'ailleurs Pascal Rioux, ce lecteur attentif de l'œuvre de Baumin, vous l'avez défini tout à l'heure d'un terme, l'inouï. Est-ce que cette notion de précarité, de fragilité, d'insaisissable, vous la percevez également lorsque vous lisez telle ou telle œuvre ou tel recueil de Christian Baumin ?
Oui, je voudrais poursuivre en disant, en employant un mot qu'on n'a pas encore employé, un mot délicat à employer, qui est le mot amour. Le poème cherche à faire entendre de l'autre inouï, c'est-à-dire de l'autre que je ne maîtrise pas, sur lequel je ne mets pas la main. L'écriture poétique n'est pas là pour mettre la main sur le monde, mais pour ouvrir dans le langage une place pour l'autre, ce que fait l'amour. Et chez Pascal Rioux, comme chez Christian Baubin, il y a une réflexion sur ce que veut dire aimer, ou des poèmes où il est, disons, alors une réflexion si c'est pas le bon mot, des poèmes à propos de l'amour. Je voudrais lire un passage de Christian Baubin, où Christian Baubin oppose deux manières d'aimer. La manière d'aimer qui consiste à capter l'autre, à le prendre pour soi. Les amants se mangent l'âme et ensuite ils se lâchent, dit-il. Il dit, et il essaye d'ouvrir une autre possibilité d'aimer qui est de faire une place à l'autre. Je cite un très beau passage qui m'a marqué et m'aide. Je t'aime, donc tu me dois tout. Je t'aime, donc je suis dépendant de toi. Donc tu es lié par cette dépendance. Tu es dépendante de ma dépendance et tu dois me combler en tout. Et puisque tu ne me combles pas en tout, c'est que tu ne me combles en rien. Et je t'en veux pour tout et pour rien. Parce que je suis dépendant de toi, et parce que je voudrais ne plus l'être, et parce que je voudrais que tu répondes à cette dépendance, etc. Le discours de la jalousie est intarissable. Et la poésie, c'est ce qui nous détache de ce discours de la jalousie, c'est-à-dire, c'est laisser être le monde, laisser être l'autre et l'accueillir.
Donc il y a quelque chose aussi de l'ordre de la dépossession, de l'ordre du dépouillement. Quel est votre avis, Pascal Rioux, sur cette question-là ?
Dépossession, dépouillement, une forme d'effacement, mais attention à ne pas trop en rajouter. Je viens de me rendre compte que je faisais une erreur en citant Jean-Pierre Lemaire. Ce n'est pas marcher sur la neige, qui impliquerait une sorte de survol, vous voyez, mais c'est marcher dans la neige. Autrement dit, il s'agit effectivement de s'enraciner, de descendre dans cette neige, et il y a aussi une dimension d'affirmation. Donc, La précarité, oui, mais à condition de l'entendre, non pas comme une sorte de fragilité facile, de brindille soumise au vent, voyez, mais de l'entendre comme la capacité d'assumer notre condition de finitude, de mortel. Mais, comme le dit Claudel, plonger au sein du fini ou au fond du fini pour y trouver de l'inépuisable. Autrement dit, il ne s'agit pas de ce rêve de l'infini qui a pu être celui de la poésie pendant très longtemps, mais pour autant, ce n'est pas un renoncement à l'affirmation et, comme vient de le dire Pascal Adly, à l'accueil du monde. En l'écoutant, je pensais à cette phrase magnifique de Paul Celan. « Je ne distingue pas le poème d'une poignée de main », disait-il. Cet homme si souffrant dans son existence historique et personnelle, voilà, il y a cette capacité de tendre la main, d'accueil du monde, et c'est un geste fort, chaleureux. Ce n'est pas un geste qui tremble.
Donc il ne faut pas confondre, si je vous ai bien compris l'un et l'autre, une éthique de la simplicité avec une éthique de la fragilité.
Oui. Tout à fait.
Est-ce que cette poésie contemporaine, Bobin, Pascal Rioux, Jean-Pierre Lemaire, avant eux, puisqu'il est d'une génération antérieure, Philippe Jacotet, c'est cela qui les réunit, peut-être, cette éthique de la simplicité, loin des pompes, loin des orgues qui seraient trop tonitruants, Pascal Rioux?
Oui, mais encore une fois, si on est loin de la pompe, ça ne veut pas dire que la poésie ait oublié le souci de la beauté et de la beauté de la parole. Et simplicité ne veut pas dire absence de dignité de la parole. Vous venez de citer Jacotet, il se trouve que, écoutez, je l'ai sous les yeux, voilà une phrase de lui.
Vous pouvez nous le lire.
Oui, c'est la lumière qu'il faut à tout prix maintenir. Quand les yeux commencent à n'y plus voir ou rien que des fantômes, rien que des ombres ou des souvenirs, il faut produire des sons qui la préservent, radieuses dans l'ouïe.
Donc on n'est pas du tout dans une tentation de la déréliction, de l'informel, du chaos. C'est aussi une dignité que cette parole poétique.
Tout à fait.
Pascal David, trouvez-vous cela, vous, dans votre lecture de Bobin?
Dans ma lecture de Bobin, je retrouve cela, effectivement, cette quête de ce qui est imprévu, ce qui suppose de renoncer à soi. Bobin dit quelque chose comme « c'est quand je regarde par la fenêtre en renonçant à ma volonté propre que le poème vient ». Et donc, ce que je retrouve, c'est cette absence d'emprise exercée sur le monde afin que quelque chose se donne.
Quelque chose se donne, ça va être quelques notes de musique.
CF. Dialogue présenté par Monserrata Vidal.
Laissons la musique de Rameau, revenons à la musique des mots poétiques. Je voudrais citer Jean de la Croix, que j'ai entendu citer par Pascal Rioux. Vous disiez, Pascal Rioux, citant Jean de la Croix, ceci: pour toute la beauté, je ne me perdrai pas, mais pour un certain je ne sais quoi, qui certain d'aventure. Donc, cette parole forte de Jean de la Croix vient bien corroborer cette idée que l'un et l'autre vous développiez, à savoir que si la poésie contemporaine peut paraître parfois malmenée, parfois en crise, elle a une tenue, elle a une dignité, elle a aussi des racines qui lui permettent de dire une parole juste, ou en tout cas d'atteindre une forme de justesse. Pascal David.
Je voudrais lire un passage du dernier recueil de Pascal Rioux, D'âge en âge, poème. Et on ne le connaît que trop bien, ce massacre de la joie sous l'ordre du devoir. Combien d'entravés qui se croient serviteurs et n'ont fait que châtrer la noblesse de vivre. Combien vont susurrant agapés, agapés, les bras fort clos sur leurs désirs, puis vont singeant l'amour. Alors, l'amour n'est pas facile. Je dis ça parce que c'est ça, à mon avis, la poésie. La poésie, c'est s'écarter de des manières habituelles d'user du langage, des manuels habituels de vivre. En ce sens-là, Simone Veil disait que François d'Assise, pour revenir à lui, a eu une vie poétique, que sa vie était poésie. C'est-à-dire que la vie de François d'Assise est une vie qui s'écarte. Une vie qui s'écarte de la norme, de la société, du métier, et il incarne dans sa vie même la poésie. Et ça, François Bobin le fait bien sentir dans Le Très Bas.
Simone Veil, un nom, j'allais dire magique, presque, vient d'être prononcé. Pascal Rioux, est-ce que dans votre démarche poétique, vous sentez l'importance de cette philosophie, de la philosophe Simone Veil?
Et si je peux compléter la question, je voudrais demander à Pascal Rioux, à propos de Simone Veil, ce qui me frappe, c'est que beaucoup de poètes importants aujourd'hui se réclament de Simone Veil. Michel Deguy me disait l'importance que Simone Veil avait pour lui. Jacotet a écrit un texte sur Simone Veil. Bobin écrit sur Simone Veil alors qu'il dit ne pas aimer la philosophie. Jean-Pierre Lemaire parle de Simone Veil. Donc, Simone Veil, aujourd'hui, pour vous, comment vous voyez les choses?
On va essayer d'être modeste un tout petit peu quand même, parce que Jean de la Croix, Simone Veil, on met la barre très très haut. Le sommet de la mystique d'un côté, et puis la radicalité d'une vie de l'autre, avec l'engagement ouvrier, l'engagement politique, la radicalité d'une vie même jusqu'à certains extrêmes. Enfin, je ne peux pas vous répondre sans, par moments, avoir peur de cette radicalité quand ça touche l'anorexie de quelqu'un. Je me dis que cette pureté diamantine qui est au sein de l'œuvre de Simone Veil a quelque chose de fascinant, quelque chose dont je me détache par moments aussi. Quelque chose de fascinant, oui, bien sûr. Son retour à la Grèce, son exigence humaine, le fait absolument essentiel. Comment dire ça, sa pensée comme son écriture soit au service de la vie et non l'inverse, et d'une vie juste, et qui se traduit dans l'engagement politique, dans l'engagement social, dans l'engagement ouvrier, ça c'est absolument admirable. Et l'extraordinaire capacité d'intuition spirituelle qui est la sienne, notamment dans ses entretiens, enfin dans son dialogue avec Joël Bousquet, dans sa méditation des troubadours, là il y a quelque chose d'admirable. À d'autres moments, il est vrai que comment vous dire, je me sens plus tempéré qu'elle. Voilà, je n'hésite pas à le dire.
Tempéré. Merci Pascal Rioux, vous donnez la note finale de cette première émission consacrée à la poésie en votre compagnie, Pascal Rioux, en votre compagnie, Pascal David. Mais un second dialogue va nous permettre d'approfondir toutes les intuitions que vous avez bien voulu nous proposer. Merci.
Merci à vous, merci aux auditeurs.
Merci.